passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro, ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
Bonjour, la révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Annick Carsenti de l'association Femmes Solidaires Marseille, donc on est présidente. Elle est déjà venue plusieurs fois sur cette antenne. Et aujourd'hui, je lui avais demandé un petit travail qu'elle a fait avec plaisir, je crois. Et c'était de pouvoir nous parler de l'histoire des luttes pour obtenir le droit si important à l'IVG. Voilà, donc cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais parler beaucoup. Je vais profiter de tout ce qu'elle a à nous dire et beaucoup de choses. Donc, je vous laisse, elle va se présenter et puis on va démarrer.
Alors, bonjour à toutes et tous. Voilà, écoutez, j'ai le privilège, ça montre aussi mon âge, de pouvoir vous parler de cette lutte des femmes, des féministes pour l'avortement libre et gratuit qui a commencé en France, on peut dire, après la Deuxième Guerre et qui s'est amplifiée à partir des années 70. Mais avant, je voudrais vous lire un court texte en hommage à une femme. Une grande femme, une combattante, une battante qui s'est aussi beaucoup battue à côté des féministes pour obtenir ce droit. Voilà, je vous le lis, ce texte, il n'est pas très long. Enfin, n'ayez pas peur de vous dire féministe. C'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente les rapports hommes-femmes, enfin fondée sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés à leur genre et où la libération des femmes signifierait aussi celle des hommes, désormais soulagés des diktats de la virilité. Quand on y songe, quel fardeau sur leurs épaules! Les féministes de ma génération se sont vaillamment battues. Elles ont arraché une à une des réformes qui profitent à toutes. La société française, loi sur la contraception, l'avortement, le divorce, reconnaissance du harcèlement social comme un délit et du viol comme un crime, mesures en faveur de la parité politique et de l'égalité professionnelle. Disons qu'on a bien délayé le terrain, mais il faut une relève. À qui tendre le flambeau? Le combat est une dynamique. Si on l'arrête, on dégringole. Si on arrête, on est foutu. Car les droits des femmes sont toujours en danger. Soyez donc sur le qui-vive, attentive, combative. Ne laissez pas passer un geste, un mot, une situation qui atteinte à votre dignité. La vôtre et celle de toutes les femmes. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires. Voilà, je vais m'arrêter là. Cette femme, bien sûr, c'est Gisèle Halimi. Je suis toujours très émue de la lire.
Oui, moi aussi. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai dédié une émission à Gisèle Halimi et ça m'émeut aussi autant que toi, Annick, ce message et toute son histoire et voilà, tout son combat et ce message qu'elle nous transmet aux futures générations. Voilà.
Alors, bon, on va on va faire un petit peu d'histoire peut-être ou faire un déroulé sur toutes ces années. On va commencer un petit peu à parler de la loi de 1920, mais je voudrais vous dire quand même quelque chose. L'adoption définitive de la loi Veil, légalisant l'avortement en 1979, 75 et 79, je vous expliquerai pourquoi, restera la victoire la plus importante et la plus puissante. Parce que à l'époque, très improbable, la droite était très forte, la droite catholique, réactionnaire, obscurantiste, était à l'époque très forte. Et cette loi, donc, elle a été adoptée, obtenue par les luttes féministes dans notre pays. Alors, je voudrais, parce qu'on en parle souvent, certains disent, oh ben, on la met au même titre que le droit de vote. C'est sûr que c'est les deux lois qui ont fait avancer les droits des femmes depuis la fin de la guerre. Moi, je dirais droit de vote pour les femmes et IVG, avortement libre et gratuit pour les femmes. Mais maintenant, qui reviendrait sur le droit de vote? Alors que... Puis en plus, maintenant, le droit de vote, la liberté, la parole des femmes est quelque chose d'acquis, même si elles ont encore des difficultés à s'exprimer. Alors que la loi sur l'avortement libre et gratuit, elle, n'a jamais été cessée d'être attaquée et remise en cause, hein, toujours. Inlassablement, il y a des gens qui pensent la remettre en cause. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire, ici et en particulier à toutes les femmes et à tous les hommes aussi, j'espère qu'il y en a beaucoup de féministes, et à tous les jeunes, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours faire attention, être vigilant. Cette loi que nous avons obtenue avec une forte mobilisation et qui a eu des améliorations successives jusqu'à nos jours, il faut faire attention parce qu'elle peut être remise en cause. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord.
Et pour l'obtenir, ça ne s'est pas fait si facilement comme tu vas nous l'expliquer. Il a fallu beaucoup de mobilisation, beaucoup d'action.
Alors, petit retour quand même historique et à cette fameuse loi qu'on appelait la loi de 1920, qui a été en vigueur jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, à cette période-là, eh bien, les avorteurs, on disait, hein, je cite, « Les avorteurs, nous les aurons. Les avorteurs tuent un petit Français sur trois. Ceux qui les protègent trahissent la France au profit de l'étranger. » Alors, bien sûr, les avortements étaient totalement interdits, ils étaient clandestins, hein, et même il y avait à l'époque des sections spéciales de police qui étaient chargées de traquer les avortements, et bien sûr, et les femmes qui subissaient les avortements, et bien sûr, les avorteurs. C'était souvent des femmes que l'on appelait les tricoteuses, parce que, eh bien, elles se servaient d'aiguilles à tricoter pour percer la poche des os. Voilà, je passe vite quand même. Après, il y a eu quand même, il faut le mentionner, l'arrivée de, pendant la guerre, l'arrivée du gouvernement Pétain, hein, et donc le régime de Vichy, où la devise officielle était « Travail, famille, patrie », l'avortement a été déclaré un crime contre la sûreté de l'État et passible après jugement de tribunaux d'exception de la peine de mort. Voilà, ça c'était en 42. Et d'ailleurs, on en parle, ça a été l'objet d'un film. Tu me diras le titre.
Une affaire de femme. Une affaire de femme.
Voilà. Marie-Louise Giraud sera guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Ça, c'était le 30 juillet 43. Et le 10 août 43, un médecin, Désiré Pioge, a aussi été condamné à mort pour avoir pratiqué des avortements. Voilà, donc toute cette histoire-là montre que l'avortement était considéré comme un délit ou un crime et qu'il a été longtemps pénalisé fortement et puni par la peine de mort. Alors, nous continuons bien sûr avec ce fond de loi 1920. Je vais vous donner quand même un certain nombre d'éléments qui vont montrer que les choses progressent un petit peu. En 1955, l'avortement thérapeutique est autorisé. Et puis, aux États-Unis, parce que ça va nous impacter, la pilule anticonceptionnelle est mise au point. Et puis, une date aussi qu'on peut citer, en 1956, c'est la fondation de la maternité heureuse, qui deviendra, 4 ans plus tard, le mouvement français pour le planning familial. Voilà, chose quand même à saluer.
qu'à l'époque, il y avait une forte politique nataliste. En fait.
Alors, à l'époque, là, oui, surtout après la saignée de la Première Guerre mondiale, hein, c'est pour ça la loi de 1920, il fallait absolument repeupler la France. Et alors, il y avait les politiques, il y avait deux, il y avait la carotte et le bâton. La carotte, on commençait déjà à donner aux femmes des congés de maternité. Elles pouvaient avoir des indemnités quand elles étaient absentes du travail. Et de l'autre côté, il y avait la répression féroce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a quand même, dans l'évolution de la vie des femmes, quelque chose d'autre à noter aussi. En 1967, la loi Neuwirth, qui utilise la vente des produits contraceptifs, mais bien sûr très encadrée. À ce moment-là, la majorité légale est à 21 ans. Il fallait donc une autorisation parentale absolument pour la délivrance de la pilule. Et il y a aussi un frein, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, tous les réactionnaires étaient là aux avant-postes pour agir. Eh bien, les décrets d'application n'ont été signés qu'à partir de 1972. Voilà. Alors quand même... Il faut dire maintenant qu'à partir des années 70, les féministes sont là. Il
et
y a le MLF.
Tu étais là.
Pardon.
Et toi,
ah, oui.
Tu en faisais partie.
Donc,
voilà.
En 1970, les féministes étaient là. Et je vous dis humblement que j'en faisais partie.
Voilà.
Il y avait le MLF, il y avait des groupes femmes, il y avait aussi, issue de mai 68, une agitation constante dans la société française. Il y avait les étudiants, il y avait les lycéens qui luttaient, il y avait des luttes salariales, des luttes syndicales, et il y avait aussi les féministes qui commençaient à se poser des questions, qui contestaient la situation faite aux femmes quand elles voulaient avorter. Parce que beaucoup se terminaient ces avortements par la mort des femmes, voilà, ou bien des situations ensuite qui étaient dramatiques pour leur santé. À ce moment-là, il faut le dire aussi, il y a bien sûr des manifestations de féministes très très nombreuses. Par exemple, 40 000 femmes manifestent à Paris pour le droit à l'avortement. Et j'ai aussi l'honneur de vous dire que j'y ai participé. Toute la société, j'allais dire, se mobilise. La société progressiste. Il y avait les intellectuels, il y avait les artistes, il y avait des intellectuels, il y avait tout un tas de gens. Et puis les féministes. Et quelque chose qui a marqué la société française et la lutte à ce moment-là, c'est le 5 avril 1971, la publication dans le Nouvel Observateur du manifeste des 343. Qui a été ainsi appelée par ses initiatrices. Hein, c'était 343 femmes, personnalités du spectacle, littéraires, politiques, mais aussi des simples militantes, en particulier des médecins dans les services, dans les hôpitaux, qui ont déclaré tout simplement avoir avorté. Aucune poursuite n'a été engagée, mais certaines ont quand même été un petit peu touchées par cette déclaration. Alors, dans ces bien sûr, femmes, alors, elles ont été appelées les 300...
Tu peux nous en citer quelques-unes, même si...
Oui.
Bon,
elles ont aussi été appelées les 343 salopes. Mais ça, cette appellation est venue de Charlie. Mais c'était par sympathie, bien évidemment. Alors, il y avait Delphine Seyrig, il y avait Simone de Beauvoir, il y avait, et j'en oublie, Nadia, si tu peux m'aider, il y avait Gisèle Halimi. Voilà, il y avait tout un tas de... Il y avait Catherine Deneuve, etc., etc. Toutes ces femmes qui, donc... Il y avait Benoît de Goult, il y en avait plein d'autres. Voilà, et... Parce que certaines ont été peut-être un petit peu inquiétées et que beaucoup des femmes étaient inquiétées parce qu'elles avaient avorté et beaucoup de médecins étaient inquiétés parce qu'ils avaient pratiqué des avortements. Dans cette même année, on assiste à la création de l'association Choisir, donc avec Gisèle Halimi, dont on a parlé tout à l'heure, et Simone de Beauvoir, à la fois pour faire avancer les droits des femmes, parce que Gisèle Halimi était une avocate, et aussi pour défendre toutes les personnes qui étaient accusées d'avortement, soit parce qu'elles avaient subi des avortements, soit parce qu'elles avaient pratiqué des avortements. Mmh. Et parallèlement à ça, donc, les manifestations féministes se poursuivent Elles étaient beaucoup à Paris. On allait à l'époque, vraiment, on prenait le train facilement.
Donc, et
on
se retrouvait. 40 000
Oui, 40 000 en novembre 71.
Voilà. Oui, je voulais te demander, et au niveau des partis politiques, des syndicats et tout ça,
Très bonne question. Ouais. Alors, à cette période-là, la gauche était un petit peu divisée. Les démocrates, je dirais, étaient un petit peu divisés. Alors, il y avait toute une partie qui s'appelait à ce moment-là la Nouvelle Gauche. C'était toutes les associations et toutes les parties d'extrême gauche. Puis, il y avait aussi le PSU. Parti socialiste unifié. Bon, ça, c'est un peu vieux pour les jeunes. Hein. Et puis, il y avait aussi les militantes de la CFDT. Et puis, il y avait des individus aussi, des individualités. Toutes ces femmes et tous ces hommes, bien sûr, formaient ce qu'on a appelé la Nouvelle Gauche, qui était opposée, mais pas vraiment opposée, parce que les autres n'étaient pas contre. Mais ce n'était pas leur culture de l'époque, à ce moment-là. Il y avait le Parti communiste français et la CGT. Ils n'étaient pas pour. Mais ils n'avaient pas cette vision encore de la famille. Voilà.
Ils n'étaient pas prêts, en fait.
Ils n'étaient pas tout à fait prêts. Ouais. Mais enfin, ils étaient quand même là de manière individuelle. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui a aussi fait beaucoup avancer les choses. C'est le procès de Bobigny. Celui-là, quand même, il faut le citer. Donc, en octobre 72, une jeune fille, Marie-Claire, est dénoncée par son ex-petite amie. Elle avait été violée, elle lui avait dit qu'elle allait porter plainte, et furieux, il l'a dénoncée. Il a dénoncé le fait qu'elle avait subi un viol. Donc Marie-Claire...
Donc elle s'était faite avorter.
Elle s'était faite avorter, elle s'était faite avorter. Ouais. Donc Marie-Claire, sa mère et des amis sont inculpés. Elle contacte Gisèle Halimi, qui décide... qui les convainc d'abord, parce qu'elle n'était pas forcément totalement convaincue au départ, qui les convainc d'en faire un procès politique. Et ça va être un élément essentiel pour faire avancer ce droit. Donc, Bobigny, un procès politique, et bien sûr, Gisèle Halimi et les autres avocates, bien sûr, et la mobilisation fait en sorte que Marie-Claire est avortée et soit acquittée suite à un avortement, suite à un viol. Et je dois dire que ce procès politique a été très importante pour la mobilisation. Alors bien sûr, il y avait des témoins prestigieux, Delphine Seyrig, Jean Rostand, Jacques Monod, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas favorables à l'avortement. Et en particulier, le professeur catholique Paul Miliès, c'était un médecin. Et je vous cite quand même ce qu'il a dit. Il n'y avait pas d'autre issue que de le faire. L'avortement, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi nous, catholiques, imposerions notre morale à l'ensemble du pays. C'était à l'époque un grand professeur de médecine et il a quand même été blâmé par le Conseil de l'Ordre. Bon, voilà le procès de Bobigny qui avance. Moi, je me souviens, j'y étais.
Ah oui.
Je n'ai pas pu rentrer dans la salle. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si des féministes avaient pu rentrer dans la salle, mais devant la grande place du palais de justice de Bobigny, qui est très grande, nous étions, je ne sais pas, des milliers. Voilà, je me rappelle, moi, je n'ai même pas pu voir Gisèle Halimi et Marie-Claire sortir du tribunal, tellement qu'il y avait du monde. Je me rappelle simplement d'une banderole. L'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres.
Ah, tu peux nous expliquer pour celles qui...
Eh bien, à l'époque, bien sûr, l'avortement était interdit. Mais les familles riches, parce que dans certains pays, l'avortement était possible, dont l'Angleterre à l'époque, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, eh bien, les familles riches, elles prenaient l'avion ou elles prenaient le bateau, et puis elles allaient se faire avorter en Angleterre. Attention, ce n'était pas gratuit, mais elles pouvaient sans problème se faire avorter en Angleterre. Et donc, c'était encore une question d'argent. Voilà. Donc voilà, le procès de Bobigny a été a été retentissant et a fait avancer les choses.
C'est vrai que Gisèle Halimi, c'est pour ça qu'on a tellement envie d'en parler, de la remercier, parce qu'elle était vraiment sur les plus grands bouleversements de la société, en fait. En tant qu'avocate, elle a fait énormément.
Voilà, elle n'a pas fait que ça, bien sûr, mais elle a fait beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Alors, bon, si, oui, pardon.
Est-ce qu'il y a eu un autre... tu m'as parlé de... choisir un mouvement qui s'appelait Choisir, là, créé par Gisèle Halimi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme organisation ?
Choisir, ouais. J'en ai parlé.
Ah,
hein.
Ouais.
Choisir. Alors, voilà. À ce moment-là, il y a une telle effervescence dans la société française. Beaucoup de gens, la question de l'avortement traverse la société française. Mm-hmm. Et beaucoup de gens veulent faire avancer la cause. Donc, il va y avoir, en avril 73, la création d'un mouvement qui s'appelait le MLAC.
Voilà.
Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. J'ai encore l'honneur de vous dire que j'ai participé au MLAC. Mm-hmm. Alors, ce MLAC, qu'est-ce que c'était ? Donc, le MLAC... Il a été d'une importance capitale dans la bataille pour obtenir le droit à l'avortement. Son action était double. Ce sont des femmes, des féministes, des médecins, tout un tas de gens qui étaient là pour faire avancer la question, qui se sont regroupés. Ils se sont regroupés par hôpitaux, par quartiers, dans les villes. Chaque comité était libre de pratiquer ou non des avortements. Certains médecins qui avaient appris cette nouvelle méthode qui venait des États-Unis, qui s'appelait la méthode Karman, qui était la méthode Karman sans commune mesure avec... ce qui était pratiqué autrefois, qui était dans le meilleur des cas des curetages. Mm-hmm. Et quelquefois, certains médecins pratiquaient les curetages à vif. Donc, je ne vous dis pas ce que ça provoquait comme chose horrible pour les femmes qui les subissaient. Donc, cette méthode Karman, quand même, il faut en dire un mot, c'était une aspiration et elle était sans anesthésie ni dilatation du col. Et elle était... bien sûr, on sentait ce qui se passait dans notre corps, mais elle était peu douloureuse. Voilà, donc ces médecins et ces structures MLAC vont faire deux choses. Ils vont essayer de commencer à pratiquer ces avortements. Bien sûr, c'était complètement illégal au début.
Ah oui. Hein,
donc, on se regroupait par comité. Comme il y avait des groupes femmes à l'époque, il n'était pas très difficile de rencontrer des femmes qui voulaient avorter. Donc, ces comités MLAC se regroupaient, bien sûr avec beaucoup de précautions, et dans certains endroits, eh bien, ils pratiquaient des avortements par cette méthode. Et donc, ils se battaient donc à ce moment-là, on se battait pour l'avortement libre, et il fallait que la décision appartienne à la femme, donc le refus de toute contrainte, et aussi la déculpabilisation des femmes. Voilà, ces médecins, eh bien, ils disaient pratiquer des avortements et aider les femmes. Et bien sûr, ils réalisaient ces avortements sans aucun trafic financier. Et ils disaient aussi qu'ils étaient prêts à répondre de leur action devant l'autorité judiciaire et devant l'autorité médicale, parce qu'il faut dire que
beaucoup.
Le Conseil de l'ordre à l'époque était féroce.
Il y avait des comités comme ça du MLAC un peu partout.
Oui, il y avait des comités MLAC à Marseille. Moi, j'ai participé à un comité MLAC à Marseille. Alors, bien sûr, ce n'était pas suffisant. On ne pouvait pas avorter toutes les femmes qui voulaient avorter. Mmh. Hein, donc, il y a eu la deuxième action du MLAC. Ça a été de regrouper les femmes en quart et de les amener. Donc, nous partions en quart et nous allions à ce moment-là soit en Angleterre, soit en Hollande. Donc, la deuxième action du MLAC, ça a été d'organiser des voyages pour que les femmes... puissent avorter dans de bonnes conditions, en sécurité, parce que c'était autorisé dans ces pays, voilà, de avorter dans des bonnes conditions. Mmh. Alors, je dois dire que, à ma connaissance, peut-être que j'ai oublié, il n'y a eu aucune répression. Bon, les cars, c'était des cars de voyage. Hein. On n'écrivait pas « avortement libre et gratuit ». On passait la frontière. Ça durait quand même quelques jours, hein, parce qu'il fallait interroger les femmes, voir quand même les questions de santé. Ça ne se faisait pas à la va-vite. Voilà, donc on partait avec ces femmes et
donc
on revenait
des militantes
avec
comme
ces
toi
femmes.
On accompagnait
ces femmes. On avait les adresses dans les pays. Moi, j'allais en Hollande. Je ne suis jamais allée en Angleterre. Voilà, donc l'action du MLAC a été de deux ordres, hein, de deux ordres, Et alors, il y a eu autre chose aussi. Pour faire progresser, la cause, en France, à l'image des 343 femmes, 331 médecins ont décidé de dire qu'ils avaient pratiqué des avortements. C'était des médecins qui étaient liés, bien sûr, au MLAC. Ils ont donc, c'était en le 3 février 73, donc 331 médecins rendent public un manifeste. Ils ont pratiqué
pour dire des qu'ils avaient avortements. Pratiqué.
En fait, ils ont fait écho un petit peu au manifeste des 343 femmes qui avaient d'avril 71. D'accord.
Ouais.
Alors là, ça s'est passé moins bien. Un certain nombre de ces médecins ont été ont subi la répression. Et c'est là que l'association de Gisèle Halimi, Que choisir, a participé et les a défendus. Et je vais préciser autre chose. Le 4 avril 73, des médecins à l'hôpital Saint-Antoine décident de pratiquer un avortement en public. Alors là, ça démultiplie l'action. Tout le monde en parlait.
Ouais.
Et il a été démontré que la société avançait quand même. Hein. La société avançait, le débat était dur.
Ça faisait énormément évoluer les mentalités.
Les gens, les mentalités évoluaient. Et on a posé la question, pour ce droit à l'avortement, de qu'est-ce qui était illégal et qu'est-ce qui était légitime. Donc, pratiquer des avortements était illégal. Mais se battre pour et en pratiquer pour faire avancer les choses, c'était légitime. Et là, on se rendait compte que la société évoluait. Voilà. Alors, dernière chose sur le MLAC. Le MLAC est incontournable de la bataille pour obtenir la loi Simone, la loi Veil. Hein. Il a donc... Il a mis en avant que la décision appartenait aux femmes et que l'avortement était un acte médical. Voilà, ça a été un grand moment, l'action du MLAC. Et cette action s'est terminée au moment où la loi Veil a été défendue au Parlement.
Oui, puisqu'a priori, il n'avait plus lieu d'exister. Je ne sais pas, on va peut-être faire une petite pause musicale.
Si tu veux, volontiers.
Voilà, et puis on reprendra juste après.
Ça va, Nadia ?
Mm-hmm.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, on reprend l'antenne avec Annie Carsenti, présidente de Femmes Solidaires Marseille, qui nous raconte, et c'est passionnant, toute l'histoire des luttes pour l'obtention du droit à l'avortement en France. Donc, je te laisse reprendre.
On sera féministe, et bien sûr, les féministes ne lâchent rien. Alors voilà, donc après le travail du MLAC, la société civile est un peu en ébullition et puis cette idée progresse que les femmes puissent un jour avorter et que la revendication du mouvement, l'une des revendications des féministes, c'est qui était un enfant si je veux, quand je veux, eh bien cette question, cette revendication progresse. Et puis, il y a eu un changement politique. Giscard est le nouveau président de la République. Et bon, sur certains problèmes sociétaux, je peux dire qu'il est un petit peu plus ouvert. Et puis, il a aussi un sens très aigu des rapports de force. Donc, Giscard, pendant la campagne électorale, dit « Je suis concerné par cette question et je vais m'y pencher dès que je serai élu. Je ne veux pas trancher dans la précipitation pendant la campagne électorale. » Chose dite, chose faite, il nomme Simone Veil ministre de la Santé. Et donc, alors pendant ce temps, bien sûr, les féministes sont toujours là, dans la rue, et se font entendre. Alors, une première chose va être faite qui va être importante. C'est qu'en 1974, l'Assemblée nationale vote le projet de Simone Veil qui libéralise totalement la contraception. La sécurité sociale va rembourser la pilule et les mineurs ont droit à l'anonymat. Ça, c'est quand même très important. Alors, bien sûr, il y a toujours le revers de la bonne chose, c'est qu'il faudra que l'information soit faite. Et l'information à la contraception, on sait très bien que même maintenant, elle n'est pas très bien faite. Mais enfin, ça progresse un petit peu. Et puis finalement, à partir de novembre 1974 et jusqu'à janvier 1975, il va y avoir le débat à l'Assemblée nationale sur ce qui s'est appelé la loi Veil. Alors Simone Veil défend sa loi dans une Assemblée nationale où, si ma mémoire est bonne, il doit y avoir en tout et pour tout 10 femmes. Donc elle est face à des hommes, un monde d'hommes. Et pour les hommes de la droite, je dirais à un monde d'hommes déchaînés, vitupérants, violents. Vous n'avez qu'à regarder dans les images de l'INA ce qui s'est passé au moment de cette vote. C'est impressionnant. Mmh. Voilà, elle a même eu des tags nazis, quand on sait son histoire, chez elle. Bon, finalement, avec un calme que je pourrais cataloguer d'Olympien, elle défendra sa loi envers et contre tout. La loi Veil est donc promulguée le 17 janvier 1995. Alors, cette loi, alors, c'était un premier pas considérable. Je me souviens, il y a même eu des débats parmi tout le monde qui s'était battu, parmi tous ceux qui s'étaient battus pour l'obtention de cette loi, y compris chez les féministes. Il ne fallait pas de loi, elle ne va pas assez loin, etc., etc. Mais cette loi, bien sûr qu'elle n'allait pas assez loin, mais cette loi marquait un premier pas considérable pour l'avancée des choses. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas dans cette loi ? D'abord, elle était expérimentale. Elle devait être votée définitivement 5 ans plus tard. Chose qui sera faite, reconduite. Ensuite, bon, l'interruption de grossesse devait avoir lieu avant la fin de la 10e semaine. Il y avait aussi un débat, un entretien entre la femme qui voulait avorter et le médecin qui allait l'avorter ou le service dans lequel elle allait avorter. Elle devait signer un papier aussi comme quoi elle était d'accord pour avorter. Voilà. Et il y avait aussi, excusez-moi, j'allais oublier le plus important, il y a eu la clause de conscience spécifique concernant l'IVG attribuée aux médecins. C'est-à-dire que cette loi disait qu'un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticien susceptible de réaliser cette intervention. Mmh. Donc, cette clause de conscience spécifique...
Elle existe toujours aujourd'hui.
Oui, elle existe toujours. On verra tout à l'heure, hein, ouais. On va en venir. Donc, cette clause de conscience spécifique était quand même un frein assez considérable à l'avortement. Ouais. D'ailleurs, il faut dire aussi que les médecins qui étaient contre, qui donc ne pratiquaient pas l'avortement, pour beaucoup, omettaient d'informer les femmes sur le fait qu'elles pouvaient se faire avorter ailleurs et par d'autres confrères.
Et puis, tu m'as dit aussi tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que la femme devait montrer qu'elle était en situation de détresse.
Et la femme, dernier élément, elle devait prouver sa situation de détresse. Donc, elle était aussi peut-être infantilisée, comme toujours pour les femmes. Devait montrer sa situation.
C'est pas forcément facile et c'est un peu plutôt culpabilisant.
Et alors, pourquoi il y avait eu cette clause ? C'est-à-dire que ça avait sans doute au gouvernement servi peut-être de compromis pour faire passer plus facilement la loi sur l'avortement, parce que les oppositions étaient absolument farouche. Voilà, donc cette loi, 5 ans après, sera promulguée définitivement. Voilà, on en est là en 1979. Alors quand même, les luttes ont continué, peut-être un petit peu moins fortes, mais quand même, je me rappelle qu'en 1979, il y avait eu encore d'énormes manifs en France parce qu'elles devaient être votées définitivement. Mmh. Et puis, je vais quand même dire quelque chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, eh bien, cette loi a été votée largement par la quasi-totalité des députés de gauche et très peu de députés de droite. Mmh. Là aussi, on voyait les division, les clivages de la société. Voilà. Alors après, il y a eu quand même quelques améliorations, puisqu'on fait un peu l'historique. Je vais un petit peu en parler, si tu es d'accord.
Oui, oui, bien sûr. Si tu es d'accord. On a tout à fait le temps et c'est tout à fait intéressant.
Si tu es d'accord. Oui. Alors, bon, après, il y aura la loi Roudy. Yvette Roudy a été ministre de Mitterrand, hein, qui... l'IVG sera remboursé, parce que bien sûr, l'IVG n'était pas remboursé dans la loi Veil.
Hein. Ah, d'accord.
L'IVG sera remboursé. Et
c'est donc à quelle date, là ?
En 82. La loi, l'IVG est remboursée en partie par la Sécurité sociale. Mais pendant ce temps, toutes les réactionnaires se mobilisent, y compris dans la rue. Alors, il y avait tous les commandos anti-IVG, les pro-vie, les laissez-les vivre, les groupes autour d'un religieux qui s'appelait Monseigneur Lefebvre. Tous ces gens-là étaient violents. Ils s'enchaînaient aux portes des hôpitaux. Ils faisaient irruption dans les centres d'orthogénie au moment où on devait pratiquer les IVG. Ouais. Donc, ils étaient un frein à la pratique correcte de l'IVG. Alors, en 83, quand même, la loi Neyertz a créé le délit d'entrave.
Ça, c'était le 83 ou 93 ?
93, hein. Voilà, le 93, délit d'entrave.
Voilà.
Et on verra qu'il y en a eu un autre de délit d'entrave, mais c'est plus tard. Hein. Voilà. Et autre chose à vous dire qui est important. Quand la loi Veil a été votée, dans le code pénal en France, l'avortement était toujours interdit, considéré comme un délit, pour le moins.
Il n'avait pas été mis à jour.
Loi, si tu veux, c'était une amélioration du code pénal. Mmh. Et là, en 1994, eh bien, dans le nouveau code pénal, qui a dépénalisé l'avortement.
Ah ouais, donc il a fallu attendre pratiquement 20 ans.
Il a fallu
pour
attendre
mettre à jour, quoi, le code pénal par rapport à cette loi.
Voilà.
En fait.
Donc ça aussi, c'était important. Hein.
Oui.
Alors, je vais encore vous donner deux, trois choses importantes parce que je pense que c'est important à savoir. Ouais. Oui. Alors, en 2001, dans les collèges et les lycées, les infirmières scolaires sont autorisées à délivrer la pilule du lendemain, hein, le Norlevo. Mais c'est pareil. Comme l'éducation à la sexualité et à la contraception pêche beaucoup dans les écoles, c'est pareil, il y aurait encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais là, on parle de l'avortement. Ensuite, chose importante aussi, en 2001, la loi Aubry porte de 10 à 12 semaines le délai légal de l'IVG et supprime l'autorisation parentale pour les mineurs. Ça, c'est très important.
Oui. Oui, par exemple, ça, je ne le savais pas. Voilà. Je pensais que les mineurs devaient avoir demandé l'autorisation.
Non, plus depuis 2001. D'accord. Alors, en 2002, il y a un décret qui oblige les pharmaciens à distribuer gratuitement la pilule du lendemain aux mineurs. Alors, bien sûr, il y a des tas de pharmaciens qui disent « Ah, je ne sais pas », qui refusent. Mais enfin, voilà, le décret est là. Le décret est là. Ensuite, je vais peut-être accélérer.
Non, mais ça alors, va, je pense qu'on a le temps.
En 2004, l'IVG médicamenteuse est autorisée chez les gynécologues en ville et certains médecins généralistes pour les grossesses inférieures à 5 semaines.
D'accord.
Et pour les grossesses inférieures à 7 semaines à l'hôpital. Mmh. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a deux types. Il y a la méthode Karman qui est pratiquée, c'est-à-dire l'aspiration, ou la méthode médicamenteuse.
Oui. Et c'est vrai que ça, c'est une avancée aussi de pouvoir pratiquer cette méthode.
Oui, bien sûr, pratiquer cette méthode. Parce qu'il faut dire que depuis le vote de la loi, il y avait donc dans les hôpitaux, je parle des hôpitaux publics, des centres d'IVG pour pratiquer l'avortement. Mmh. Alors, ces centres d'IVG, ils ont eu aussi du mal à s'intégrer dans les hôpitaux. Parce que l'avortement, ce n'était pas quelque chose qui se pratiquait couramment. Les médecins n'avaient pas de formation là-dessus. Hein.
Ah oui.
Donc, ils étaient un peu à part. Ils n'étaient pas forcés. Donc les médecins.
La loi était passée, mais ils n'avaient pas été formés.
Les médecins qui le faisaient étaient mis un peu, pas au banc, mais un peu à part.
Ouais.
Voilà. Donc il y a eu, de 1975 à maintenant, là, il y a 133 centres IVG qui ont été supprimés. Mmh. Je dirai des chiffres plus précis tout à l'heure.
Ouais.
Donc. C'est pour ça que l'IVG médicamenteuse qui se fait chez les médecins, c'est quand même positif, c'est quand même très important. Alors, autre chose importante quand même, en 2012, le financement de la sécurité sociale prévoit une prise en charge à 100% des IVG pour l'assurance maladie. Donc ces questions financières, c'est pour les femmes qui n'ont pas assez d'argent, c'est quand même très important.
Mais oui, c'est ce que demandait le MLAC depuis le début,
bien sûr,
que ce soit gratuit.
Et en 2014, chose importante, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes remplace les mots « femme en situation de détresse », tu te rappelais tout à l'heure, on en parlait, par « femme » qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse.
Voilà,
la plus besoin de se justifier. Et ça, c'est très important.
Tout à fait.
Pas besoin de se justifier. Mmh. Bon, voilà une peut-être rapide histoire de cette loi qui a quand même beaucoup changé la vie des femmes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été au prix d'une lutte très importante. Je dirais même acharné, et qu'il faut faire attention. On le voit en Europe, ça peut revenir la situation peut revenir en arrière.
Non, c'est pour ça que je t'avais demandé, c'est très important, je pense, pour les jeunes générations, qu'elles comprennent tout ce qui est l'énergie, le combat qui a dû se faire pour obtenir un droit qui n'est pas obtenu comme ça.
Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de la réalité maintenant en France. On ne pourra pas parler de l'Europe, mais on refera une autre émission pour parler de l'avortement de l'Europe et dans le monde. Ouais. Alors maintenant, donc, alors, bien sûr, tous les 26 septembre, il y a la journée nationale et européenne et mondiale du droit à l'avortement. Toutes les féministes du monde entier se mobilisent. Bon, ça, c'est plus difficile en France parce que, justement, les jeunes filles croient qu'il n'y a plus de problème.
Voilà, c'est pour ça que c'est important de raconter toute cette histoire.
Voilà. Ouais. Alors maintenant, il y a deux revendications. Je vais les présenter de l'une après l'autre. Les féministes et le collectif Avortement en Europe, Les Femmes Décident et d'autres, bien sûr, collectifs, demandent la suppression de la clause de conscience spécifique sur l'avortement qui a été instaurée donc par la loi de 1975. Voilà.
Oui.
Il existe...
Non, pardon, tu me disais d'ailleurs que les médecins ont déjà une clause de conscience.
Oui.
Donc c'est vraiment une clause de conscience spécifique.
Les médecins ont déjà une clause
à l'IVG,
de conscience.
Donc
oui.
Voilà. On demande qu'en fait, elle est de trop maintenant. Quoi. C'est vraiment.
Voilà, donc parce que maintenant on constate que l'IVG est considéré comme un acte médical à part entière, ne justifiant pas une clause de conscience spécifique. Qui avait été écrite justement pour des raisons de rapport de force entre les progressistes et la droite au moment de la loi Veil. Voilà. L'IVG, donc, malgré les nombreux obstacles dressés, est devenu quand même une pratique courante. Et d'ailleurs, en 2014, un sondage de l'IFOP montrait que 75% des Français étaient pour l'avortement.
75% des Français.
Des Français et des Françaises, oui, étaient pour l'avortement. Donc, il est temps de supprimer cette double clause de conscience, voilà, qui vient vraiment de notre âge. Donc, c'est la première revendication actuelle. Maintenant, la deuxième revendication est le 2 octobre. Ça va être débattu à l'Assemblée nationale. C'est une proposition portée par la députée Albane Gaillot, mais qui est défendue par, j'ai plus les chiffres, mais 350 ou députés, qui est portée par plein d'associations, dont Femmes Solidaires Nationales. Hein ? Alors, cette loi, elle va bien sûr demander la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG, mais elle va demander aussi, et ça c'est très important, l'allongement des délais de 12 à 14 semaines.
Oui, voilà. Parce qu'en plus, pendant le confinement, on a bien vu qu'il y a des femmes qui avaient dépassé le délai.
Voilà. Donc, pendant le confinement, la période a été difficile.
Ouais.
La période a exacerbé, a mis en lumière les difficultés de recours à l'IVG. D'abord, parce qu'il y a eu une baisse de fréquentation des centres de planification qui sont dans les hôpitaux, parce que bon, les gens avaient peur. Et puis surtout, il y a des femmes, il faut ne pas oublier les violences faites aux femmes pendant la période de confinement. Il y avait des femmes qui étaient, j'emploie le mot, mais il n'est pas très fort, séquestrées par leur conjoint, empêchées de sortir. Et donc, la question des dépassements légaux s'est posée. Hein ? Voilà. Puis il y a aussi toujours les résistances que j'appellerais éthiques des médecins qui sont contre. Hein ? Puis il y a aussi une inégalité territoriale en France, les difficultés d'accès aux IVG. Par exemple, dans la région PACA, on n'a presque pas de problème, on n'a pas de problème. Si on va en Creuse, j'ai rien contre les Creusois, ou je vais parler de ma région, ou dans le Cantal, ou ailleurs, eh bien, vu la disparition des services publics, eh bien, pour avoir accès à un avortement, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Actuellement, il y a encore 5% des IVG qui sont pratiquées dans les deux dernières semaines. Donc, ce chiffre montre encore qu'il y a des difficultés dans le parcours et l'accès pour les femmes qui souhaitent un IVG. Des difficultés d'accès et de parcours.
Ouais, et puis tu me disais, il y a eu 133 centres IVG qui ont été fermés.
Oui, alors il y en a eu 133. Excuse-moi, je cherche mes notes, il faut que je les trouve. Si on veut parler... un peu des chiffres maintenant. Ouais. Je vois que le temps passe vite.
Oui, il nous reste quelques minutes.
Il y a eu, depuis la loi Veil, il y en a eu 133. Entre 2012 et 2019, il y a eu 60 centres fermés. Et si on veut parler de Marseille, à l'heure actuelle, à Marseille, il n'y a que 3 centres d'IVG. 3 centres qui pratiquent les avortements. Donc, il faut surveiller. Alors, ces centres, des fois, se ferment faute de médecins qui veulent continuer à pratiquer des avortements parce qu'ils sont toujours mis un peu au banc de l'hôpital. Mmh. Hein ? Mmh. Et puis, pendant les vacances, par exemple, quand les médecins sont en vacances, eh bien, l'année dernière et cette année en France, il n'y a pas eu d'avortement ou très peu.
Ah oui.
Voilà, alors je voudrais intervenir. Alors donc, par exemple, quelques chiffres donc sur les délais, parce que certains disent « Ah non, ces délais, ce n'est pas possible ». Mais d'autres, de ce qui se passe en Europe, hein, en Espagne et en Autriche, l'avortement se pratique jusqu'à 14 semaines. Au Royaume-Uni, jusqu'à 24 semaines.
Ouais, donc aux
Pays-Bas,
toujours un peu à la traîne, en fait.
Jusqu'à 22 semaines. Et en Suède, jusqu'à 18 semaines. Mm-hmm. Alors, on a vu que quelques chiffres encore. Je ne sais pas si j'ai encore un petit moment, tu me diras. Une femme sur trois, dans sa vie, aura recours à l'avortement. Globalement, le nombre d'avortements s'est à peu près stabilisé en France. Hein ? Dans les hôpitaux publics, il y en a à peu près 230 000 par an. Mais il y a aussi le cas, il y a à peu près par an 1000 jeunes filles de 12 à 14 ans qui se retrouvent enceintes. Et quelquefois, c'est suite, quelquefois,
souvent,
je dirais assez souvent,
temps, parce
suite,
à, 12 à, 14
suite
ans,
à des viols.
Voilà.
Et là, sur ces 1000 jeunes filles, eh bien, il y en a 770 qui avortent. Mmh. Mais les autres, par manque de connaissances, par ignorance, etc., etc., elles n'avortent pas. Ce n'est pas par choix, bien
non,
évidemment.
Bien sûr.
Mmh. Voilà. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des écarts aussi importants régionaux. Il y a des inégalités territoriales dans notre pays. Deux chiffres. Il y a 10 IVG pour 1000 femmes en Pays de la Loire. Il y en a 32 pour 1000 en PACA.
Mmh. Mmh. Ouais.
Voilà tout ce que je peux vous dire. Je peux répondre à quelques questions si nous avons le temps.
Je crois qu'il y a aussi peut-être signalé qu'il y a une pétition à signer par rapport à ces demandes.
Voilà, il y a une pétition en ligne qui est à signer. Justement pour soutenir les deux revendications qui sont suppression de la cause de conscience spécifique et puis le passage des délais de 12 à 14 semaines. Mmh. Voilà, mais il faut aussi dire que le combat est permanent. Je veux dire, il y a toujours des gens qui sont mal informés, des jeunes qui sont mal informés. Et là, c'est aussi le rôle de l'éducation nationale, de mettre en avant
aussi, les féministes demandaient éducation.
C'est ce que les féministes,
demandent et qui n'est pas.
En tout cas, nous, quand à Femmes Solidaires, nous allons dans les collèges
vous
et des lycées.
Bien sûr, c'est bien que tu le dises.
On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'informations à faire.
Oui, tout à fait.
Énormément. Et on ne devrait pas... Bon, nous, on le fait, bien sûr, mais ça devrait être pris en charge dans les programmes scolaires.
Tout à fait, je suis d'accord, tout à fait.
Et ça procède de l'égalité,
bien sûr,
entre les femmes et les hommes.
C'est ce qu'on demande depuis longtemps, même depuis le Grenelle et tout ça, les féministes ont demandé, ça devrait être fait, et ça n'a pas été du tout pris en compte encore. Bon, écoute, je te remercie. C'était vraiment très chouette, très complet. Et voilà, donc du coup, il faudra faire une autre émission si on voulait parler comme il faudrait de l'Europe et du monde. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur l'avortement dans le monde. Hein.
Oui, parce que nous sommes justement solidaires des luttes des femmes du monde entier.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bien, je remercie toutes celles et ceux, j'espère, qui nous écoutent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais remettre petit générique qui, moi, en tout cas, me fait toujours beaucoup de bien. L'hymne des femmes. Je pourrais le remettre aussi en français. C'est bien aussi en français. Mais j'ai trouvé cette version-là, Abeas Ailas. un groupe espagnol et je trouve très 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 belle version. Merci et à bientôt. Merci Annick.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Eh bien, voilà, voilà. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Daniel avec tout pour un tout petit moment, jusqu'à approximativement 15 heures. Je peux l'antenne un peu tard, je m'en excuse. Petit problème technique, ce sont des choses qui arrivent. Bien, dans le cadre, donc, article 25, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est exactement pour en ce qui concerne les licenciements collectifs et individuels pour motifs économiques. Actuellement, avec cette histoire de Covid-19, croyez-moi, aux auditeurs, que certaines entreprises ont bon dos pour pouvoir se débarrasser donc, de leurs salariés. Donc, licenciement collectif pour motif économique. Il y a des procédures, bien sûr. Les procédures de licenciement collectif sont plus poussées que celles du licenciement individuel, notamment avec la consultation obligatoire des représentants du personnel, quand il y en a, bien sûr. Elle diffère également selon le nombre de salariés à congéder, l'effectif de l'entreprise ou encore l'existence ou non d'un comité d'entreprise. Comité d'entreprise qui, quelquefois, bat un peu de l'aile, comme on dit. Alors, en ce qui concerne les licenciements dans les entreprises de 2 à 9 employés, ou licenciements de 9 employés, les formalités donc, à suivre varient en fonction de l'effectif de l'entreprise, d'accord, lorsqu'il s'agit de licencier au moins 2 salariés sur la même période de 30 jours. Voilà. Entreprise comptant moins de 11 salariés, ou employés, comme vous voulez, dans ce cas, les procédures sont les mêmes que pour un licenciement économique individuel, sauf à propos du délai de réflexion entre l'entretien préalable et la notification donc, du licenciement. L'employeur n'attend effectivement plus que 7 jours ouvrables après l'entretien pour notifier le licenciement, qu'il s'agisse des cadres ou des non-cadres. Rappelons que le licenciement individuel, ce délai est ramené à 15 jours ouvrables pour les cadres. Ceci, c'était pour les cadres. Pour les entreprises de 11 à moins de 50 employés, et là, les choses sont différentes. Lorsqu'une entreprise de 11 à 49 salariés ne dispose pas d'un délégué du personnel, DP, les formalités à suivre pour le licenciement donc économique sont les mêmes que dans une entreprise de moins de 11 employés. Le cas échéant, les élus des personnels doivent être consultés avant toute démarche, bien sûr, d'entretien préalable avec chacun des employés à licencier, ce qui différencie la procédure de celle d'un licenciement individuel. Les délégués du personnel reçoivent d'abord une convocation à la réunion, le projet ou document présentant le projet donc, de licenciement, ainsi que les modalités de son application. Cela inclut notamment les motifs dits économiques, techniques ou financiers invoqués. Le nombre d'employés à renvoyer, le calendrier d'exécution, les catégories professionnelles touchées. L'employeur doit également présenter toutes les mesures qui sont appliquées afin d'éviter ou de limiter les licenciements, notamment les procédures de reclassement et le CSP. Trois jours au moins doivent passer avant... avant que la réunion se tienne dans laquelle l'employeur s'explique sur le projet de licenciement, répond aux questions et observations des DP et récolte leur avis. Le procès-verbal de la réunion doit ensuite envoyer à la directe compétente. Les autres démarches sont identiques à celles du licenciement individuel. Bon, et même si le licenciement économique est mis en place de manière collective, bien sûr, l'entretien préalable demeure individuel. Plusieurs entretiens sont donc nécessaires quant au délai de réunion, de réflexion, pardon, avec les entre les entretiens préalables et notification. Voilà. Il est similaire à celui qui s'applique pour le licenciement collectif de 2 à 9 salariés dans une entreprise de moins de 11 employés. Alors, en revanche, l'autorité administrative est informée de licenciement 8 jours après la notification auprès des travailleurs. Donc, les convocations pour le licenciement sont donc individuelles. Voilà. Il n'y a que le salarié, l'employeur, le patron, appelez ça comme vous voulez, ou les cadres au complet éventuellement, mais l'entretien est uniquement un salarié. Donc, hors de question de faire des procédures avec plusieurs salariés, c'est interdit. Pour les entreprises de 50 salariés plus, les procédures sont les mêmes que pour une entreprise de 11 à 49 salariés. Mais cette fois, c'est le comité d'entreprise, CE, qui doit être consulté avant les entretiens préalables individuels. Bon. Les formalités pour la réunion sont également les mêmes, notamment le délai de 3 jours pour la convocation. L'employeur peut saisir l'occasion pour présenter un éventuel projet de compression de personnel, c'est-à-dire on comprime et hop, ça saute. Le CE peut choisir de se faire assister par un spécialiste technique lors de la réunion, notamment un expert comptable. Licenciement de 10 salariés et plus maintenant, bien sûr, et là encore, ça risque de changer la donne. Hein. Lorsqu'une entreprise décide de licencier au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la procédure varie en fonction de l'effectif, donc du personnel. Dans les entreprises de moins de 50 employés, là, les choses sont encore un peu différentes. Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les délégués du personnel avant toute procédure, afin de leur informer sur le projet de licenciement et consulter leur avis. Donc, de faire une réunion de personnel et puis voilà, et consulter leur avis. À effectif égal, les règles sont les mêmes que pour le licenciement économique de 2 à 9 salariés, sauf que 2 réunions doivent être organisées. Celles-ci sont également espacées de 40 jours maximum. La première réunion se penche sur l'information et la consultation des avis des DP, donc des délégués du personnel. La deuxième concertation est vouée au dialogue. Quoique le dialogue, je n'y crois pas trop. Au terme de la première concertation, le procès-verbal est envoyé donc à la directe et les élus du personnel reçoivent la deuxième convocation à l'issue de la deuxième concertation. Le PV est envoyé à la directe et les employés concernés par le licenciement économique disposent de 14 jours pour accepter ou refuser les conventions de reclassement. S'il y a éventuellement un reclassement. Bon, s'ils acceptent le contrat de travail prend fin, le cas échéant, la notification de licenciement ne sera envoyée qu'après un certain nombre de jours pour le temps que la directe employeur et les représentants du personnel puissent s'échanger. Les autres procédures de licenciement suivent ensuite les mêmes formalités que pour les autres licenciements économiques à effectif égal. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, et là encore, les choses. Il y a encore des disparités. Hein. La procédure de licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 employés doit comprendre un plan de sauvegarde de l'emploi PSE. Elle doit être également précédée d'une consultation du comité entreprise de CE, comité établissement. Bon, consultation du CE, elle s'effectue via 2 réunions au minimum et doivent être espacées d'au moins 15 jours. Bon, l'employeur est aussi tenu d'envoyer à la directe de manière dématérialisée via le portail PSE pour tous les renseignements concernant le projet de licenciement. Le CE émet 2 avis, l'un portant sur le projet de ses modalités d'application au sein de l'article du Code du travail que je n'ai pas sous les yeux, et l'autre sur le projet de licenciement économique collectif. Il doit faire plus tard, 2 mois après, sa consultation pour des licenciements touchant moins de 100 salariés. Ce délai est alors ramené à 3 mois pour un projet concernant 100 à 249 employés à licencier et 4 mois pour les licenciements de 250 salariés au-delà. Au fur et à mesure, on dégraisse, on dégraisse, on dégraisse. La CE peut choisir de se faire assister par un expert comptable, oui, ça, ils peuvent le faire. Dans ce cas, l'employeur informe la directe, ce qui est la direction du travail. La direction du travail, oui. Tout en transmettant le rapport de ce spécialiste sur le projet, ainsi que les éventuelles modifications apportées. Voilà. Et j'en resterai là pour cette histoire donc de licenciement collectif. Et comme je l'ai dit en début d'émission, cette histoire de Covid-19, ça l'a bien rangé les grandes entreprises, quoi. Ils peuvent ainsi licencier c'est pas grave, hein. Je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici quelques minutes.
Vous écoutez Radio Galère sur la fréquence 88.4 FM et aussi en DAB+.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. Après donc les licenciements collectifs, et comme je l'ai dit en début, je le répète, avec cette histoire de Covid, la donne est totalement différente. En effet, maintenant, on peut licencier beaucoup plus facilement qu'il y a encore quelques mois, donc en arrière. Bien, activité partielle, démarche de l'employeur, chômage partiel ou technique. Autre cas, nous allons voir ce qu'il en est exactement en ce qui concerne ces activités donc partielles. En cas de recours donc à une activité partielle donc au sein d'une entreprise, les salariés touchés par la perte de salaire sont indemnisés, dispositif appelé aussi chômage partiel ou chômage technique par l'employeur. Pour bénéficier de ce dispositif et obtenir l'allocation de l'État correspondant aux heures dites chômées, l'employeur doit engager des démarches auprès de la directe. Donc, nous allons voir ce qu'il en est exactement. Recours à l'activité partielle. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Pour faire face donc à une baisse d'activité dans l'entreprise, l'employeur peut recourir à l'activité partielle dans les cas suivants. Conjoncture économique, C'est le cas donc actuellement. Quoi que l'on dise, nous y sommes. Difficultés d'approvisionnement, sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel, transformation, structuration ou modernisation de l'entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel, oui, bien sûr. Covid, par exemple, nous y revenons, elle peut prendre plusieurs formes, diminution de la durée hebdomadaire du travail, fermeture temporaire de tout ou partie donc de l'établissement. L'employeur peut percevoir une allocation d'activité partielle dans la limite de 1607 euros par salarié en 2020, quelle que soit la branche dite professionnelle, 5 heures par an et par salarié. L'activité partielle est due donc à des travaux de modernisation des installations des bâtiments de l'entreprise. Consultation du comité social et économique. Donc, demande donc d'autorisation, bien sûr. La demande doit préciser les éléments suivants. Un motif justifiant le recours à l'activité partielle. Période prévisible de sous-activité. Circonstances détaillées et situations économiques à l'origine donc de la demande. Nombre de salariés concernés, bien sûr. Nombre d'heures chômées provisionnelles. Elle doit être accompagnée de l'avis préalable du comité social économique CSE. La décision doit être modifiée à l'employeur dans un délai de 15 jours calendaires. Lorsque la demande n'est pas acceptée, la décision précise les motifs du refus. Bon, à l'absence de réponse dans les 15 jours calendaires, l'autorisation est considérée comme accordée, oui. L'état d'avancement de l'instruction du dossier peut être suivi en ligne. Et une fois l'autorisation administrative obtenue, l'employeur peut réduire ou suspendre son activité et mettre les salariés en chômage technique. C'est cette autorisation qui lui permet d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés. Donc, s'il veut obtenir cette manne, eh bien, il faut licencier, tout simplement. L'autorisation d'activité partielle n'est accordée que pour une durée maximale de 12 mois renouvelable. Allocation d'activité partielle, bien sûr, nous y viens. Cas général, transformation de restructuration, modernisation des installations, voilà, bien sûr. Il y a aussi le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie, le secteur du sport, de la culture, du transport aérien, de l'événement, et du secteur connu avec baisse du chiffre d'affaires, bien sûr. Le cas général, bien, nous allons le voir. Si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative, il peut déposer une demande d'indemnisation qui lui permet d'obtenir un remboursement mensuel des rémunérations versées aux salariés concernés. Bon, jusque-là, ça peut aller. Voilà. L'employeur peut percevoir l'activité dans la partielle, dans la limite de 1707 euros par salarié en 2020. Ceci a été dit. Le paiement est effectué par l'agence de services de paiement ASP qui agit pour le compte de l'État. Afin d'estimer le montant d'indemnisation en cas de retour à l'activité partielle, l'employeur peut utiliser un simulateur en ligne de calcul de l'indemnisation d'activité partielle. Voilà. Demande mensuelle donc de remboursement, et j'y viens. Pour obtenir le remboursement des indemnités, l'employeur doit adresser en ligne une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle tous les mois. L'employeur doit faire donc sa demande dans un délai de 1 an, suivant la fin de la période couverte par l'autorisation d'activité partielle. Le paiement est effectué par l'agence de services de paiement ASP qui agit pour le compte de l'État. Voilà. Bon, attention aux fraudes, cela peut amener à des amendes très très lourdes. Maintenant, engagement vis-à-vis des salariés, j'y viens. L'employeur demande l'activité partielle pour la première fois, nouvelle demande au moins de 3 ans après une précédente période d'activité partielle. Nouvelle demande de plus de 3 ans après une précédente période d'activité partielle également. L'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés pendant la durée de l'activité partielle. Il doit également respecter les conditions d'autorisation donc, de cette fameuse activité, etc. etc. Activité partielle de longue durée, j'y viens. La mise en œuvre donc de l'activité partielle de longue durée, APLD, est possible sur la base d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise, du groupe ou de branche. Voilà. Les accords de branche, malheureusement, ont du plomb dans l'aile. ou d'un document unilatéral s'appuyant sur un accord de branche étendue. Bon, ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable de diminuer l'horaire de travail en contrepartie d'engagement de maintien de l'emploi. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet-là. Il est 14h32, je vais mettre un peu de musique. Et nous allons faire un petit tour du côté des hôpitaux de Marseille, notamment l'hôpital de la Timone. Hôpital de la Timone que tout le monde connaît. Allez, un peu de musique.
Serre-le bien pâteux, je vois bien la serviette. Roule un pain tout collègue, roule un pain tout de beu. Il n'y a pas de douce
Radio Galère.
Quella notte davanti alla bussola, nel freddo di San Silvestro, quella notte di Capodanno, non la scorderemo mai. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti, le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Erano gli stessi signori che ci sfruttano tutto l'anno, quelli che ci fanno crepare nelle fabbriche qui attorno. Sono venuti per brindare dopo un anno di sfruttamento, a brindare per l'anno nuovo, che gli vada ancora meglio. Non resistono quei compagni che li han riconosciuti, ed arrivano i pomodori, ed arrivano gli sputi per difendere gli sfruttatori. Una tromba ha squillato quando già i carabinieri hanno corso ed han picchiato. Come son belli i carabinieri quando picchiano con le manette i compagni studenti medi, dai 14 ai 17 non la smettono di picchiare. Se il colonnello non alza un dito, sono l'immagine più fedele del nostro ordine costituito. Già vediamo i carabinieri che si stanno organizzando per iniziare la caccia all'uomo con pantere d'autoblindo. Non possiamo andare via né lasciare i dispersi, siamo ormai tagliati fuori.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. Maintenant, un petit tour du côté de l'hôpital de la Timone à Marseille. L'hôpital de la Timone à Marseille, tout le monde le connaît, c'est... un très très grand hôpital qui a été construit, qui a été de la construction comme a débuté à ma connaissance en 1974 ou a débuté en 1974, je ne sais plus très bien. Mais c'est quand même un hôpital, bon, on peut pas dire qu'il, bon, on dit qu'il est vieillissant, on dit qu'il est vétuste, on dit pas mal de choses là-dessus. Mais c'est un hôpital qui est quand même à la tête du progrès. En effet, on y trouve tous les services donc qui peuvent toucher donc à l'individu. Et c'est pour cette raison que nous allons faire, que s'appelle un peu sa biographie. Voilà. Et voir un peu ce qu'il en est exactement. L'hôpital, donc, comme je l'ai dit, est le plus grand hôpital de Marseille. Bon, dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, les Bouches-du-Rhône, tout le monde connaît. En France, bon, les bâtiments actuels datent de 1973. Mais se trouvent sur un site d'un ancien hôpital. Donc il y avait déjà un ancien hôpital, maintenant il y a l'hôpital à Simone. L'hôpital appartient donc à l'assistance publique, APM, hôpital de Marseille, et aussi le siège du service d'aide médicale urgente le SAMU. du SAMU et du Centre 15 de Marseille. Doté du statut de CHU, il est lié à la faculté de médecine donc de la Timone, de l'Université d'Aix-Marseille. L'hôpital de la Timone comporte deux bâtiments, l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes, bien que l'hôpital fut nommé par rapport au quartier de la Timone, 10e arrondissement de Marseille et son avenue éponyme. L'ensemble des bâtiments hospitaliers, la faculté de médecine, se situe dans le quartier Bayen. Voilà. C'est là-bas où on trouve qu'on s'appelle... les formations des futurs médecins. C'est-à-dire travailler sur les défunts, étudier la médecine, tout ça. L'hôpital est construit donc sur un terrain de 4 hectares, situé donc au centre de Marseille, et acheté en 1654, tant que ça, décidément, hein, par Louis David, chargé d'affaires de France à Genès, à Gênes. Alors, plantation de vignes et d'oliviers, le terrain puis passe donc par mariage entre les mains de gentiment David, 1712-1793, qui fait construire en 1765 une bastide donnée au lieu de nom de Timone. Bon, ce n'est qu'en 1869 que la ville acquiert les lieux et leur donne comme vocation actuelle en installant une extension de l'asile municipal et établit non, loin jusqu'au alors installé au palais du Pharaon, la faculté de médecine de Marseille quitte les lieux pour la Timone dans le but étant de réunir en même temps, dans un même lieu aussi, les soins, hein, l'enseignement et la recherche en médecine. Alors unifiée, la faculté de médecine se divise avec l'apparition d'une faculté de pharmacie, puis d'odontologie, etc., etc., etc. Voilà, c'était un petit rappel sur donc, l'hôpital de la Timone, qui, je le dis, je le répète, est un très, très grand hôpital et un très, très bon hôpital, quoi que l'on puisse dire. Voilà, il est 14h39, je vais mettre un peu de musique et je reprends l'émission. Il est là, il va être question. Bon, la date n'a pas encore été fixée, mais je ferai un petit rapport sur la précarité donc, dans le logement et les risques donc, d'être expulsé donc, de son logement, ou tout simplement. Allez, va un peu de musique.
L'amante mio, non sei tu l'amante mio.
Caci eri l'amante mio, non me garantava io.
Non sei tu l'amante mio, non sei tu l'amante mio. Caci eri l'amante mio, non me garantava io. A tu devi zigao la tarantella. A tu devi zigao.
Bien, je reprends le cours de l'émission encore pour quelques minutes. Non, DE, il n'y en a pas. Je vais maintenant un peu parler de ce qu'on appelle des logements insalubres en Marseille. Bon, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que cela traîne, et jusqu'à présent, rien n'a encore été fait. Bon, ce n'est pas la nouvelle qu'on s'appelle mairie centrale, donc la mairie de Vieux-Port, qui arrivera à régler tous ces problèmes-là avec un goût de baguette magique. Il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour retrouver donc des logements, comme on pourrait dire, corrects, accessibles. Voilà. Il y a, comme ça s'appelle, il y a les collectifs ont interpellé le gouvernement. Cela s'est passé le 16/02/2020, donc cette année, il y a quelques mois en arrière, dans une lettre ouverte, les associatifs avaient demandé à l'exécutif d'agir immédiatement pour résoudre la crise humanitaire que traverse la ville. Bon. Des associations et collectifs interpellent donc le ministre du Logement dans une lettre ouverte, il lui demande d'agir immédiatement pour résoudre la crise humanitaire que vit Marseille. La deuxième ville de France depuis l'effondrement meurtrier des deux immeubles en novembre 2018. Les auteurs de la lettre publiée sur les réseaux sociaux attirent l'attention de M. Juin de Normandie sur le non-respect de la charte de règlement des personnes évacuées signée après la catastrophe par la mairie et l'État et les associations. Quand je dis mairie, je dis ancienne mairie, pas nouvelle, c'est pas pareil. Donc, le 7 janvier, l'adjointe au maire de Marseille, chargée du logement, Arlette Fructus, avait rendu sa délégation au maire fustigeant notamment le non-respect par la ville de cette charte, l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne, le 5 novembre donc 2018, qui avait coûté la vie à 8 personnes, a révélé l'ampleur du phénomène. Bon, à noter que la rue d'Aubagne est totalement fermée. Hein. Enfin, sur la partie haute, je parle. Hein. Pas sur la partie basse où il y a le marché, mais sur la partie haute. Donc, côté cours Julien. Voilà. Et il a révélé l'ampleur du phénomène du logement insalubre dangereux à Marseille. Il avait été suivi de l'évacuation de plus de 400 immeubles, soit près de 4000 personnes, dont certaines ont passé plus ou moins à l'hôtel. Alors là, une question se pose, qui a payé la facture? Là, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de répondre. Voilà. Et plus d'un an après les évacuations d'immeubles, les arrêtés de péril ne s'arrêtent pas. Assure dans lettre le collectif du 5 novembre de la Ligue des droits de l'homme ou encore réseau éducation sans frontières. En moyenne, compte-t-il, 15 arrêtés de péril ont été pris par mois en 2019. Il faut maintenant une réponse rapide. Quand je dis rapide, cette réponse, elle tarde à venir. Cette crise ne peut plus donc attendre. Il alerte les collectifs. Il dénonce notamment le manque d'offres de logement, bien sûr, définitif adapté aux ressources des personnes délogées. Bon, réquisition des logements vides, alors là, ça a été un véritable parcours du combattant. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de logements vides qui ont été réquisitionnés. Bon, mais ça, c'est. Je ne sais pas exactement. Pour ma part, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de réquisitions de logements vides. Enfin, je ne sais pas exactement. La charte du relogement, est destinée à fixer le cadre donc, de l'accompagnement des opérations d'évacuation d'urgence, d'hébergement, de relogement, lorsque le propriétaire est défaillant, et elle prévoit également, une limite de mois pour l'hébergement d'urgence à l'hôtel, le règlement des personnes évacuées dans leur appartement ou leur quartier d'origine. La prise en charge, par la mairie des affaires personnelles récupérées dans les logements évacués en cours, la prise en compte de la dimension traumatique et les critères d'un logement définitif. Voilà. À Marseille, on lutte contre le temps. Hein. Les auteurs du courrier demandant donc la réquisition de logements vides, la mise en place d'une coordination réelle et resserrée entre les services d'État, ARS et CAF, les services municipaux d'hygiène, de gestion des risques ou encore d'évaluation du dispositif de relogement réalisé de manière externe comme prévu par la charte. Bon, les immeubles, trois immeubles, donc c'est fond à Marseille, portrait de Michel Ruvirola, médecin écologiste qui a conquis Marseille. À Marseille, crise humanitaire du logement à cause de la mairie de l'État. Voilà, C'était un petit retour donc sur notre bonne vieille ville qui avait besoin d'un coup de jeûne. Il est 14h47, je mets un peu de musique et je vais passer sur... ce n'est pas encore le moment, mais parler donc de la période hivernale. Allez, va, un peu de musique. Voilà, je reprends le cours de l'émission encore pour quelques minutes. Bien que la période hivernale n'ait pas encore commencé, elle ne commencera qu'au mois de novembre, aucune expulsion locative ne peut avoir lieu durant la période dite de trêve hivernale. Bon, allant du 1er novembre au 31 mars, donc ça fait 4 mois de l'année suivante, à savoir en 2020, la fin de la trêve hivernale est repoussée au 10 juillet. 2020 inclus. Voilà. Donc fin novembre à la fin mars. Alors la trêve hivernale, ben, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est une trêve qui permet de mettre les locataires donc à l'abri de toute expulsion. Nous allons voir ce qu'il en est exactement. Et surtout qui est protégé. La trêve hivernale interdit toute expulsion d'un locataire pendant 6 mois. Voilà, c'est 6 mois, c'est pas 4 mois, je me suis plainté, je m'en excuse, à savoir entre les mois de novembre et mars. Sauf s'il est prévu un relogement adapté pour le locataire et sa famille. Hein. Ou si les locaux font l'objet d'un arrêté de péril, comme indiqué dans certains paragraphes. Bon, les dates de la trêve hivernale, la loi Allure, loi pour l'accès au logement et un urbanisme donc rénové a prolongé la durée de la trêve hivernale. Elle commence donc le 1er novembre, je l'ai dit, je répète, mais depuis l'hiver 2014-2015, elle se termine le 31 mars et non plus le 15 mars. Attention, depuis l'adoption de la loi Elan, les squatteurs sont exclus du bénéfice de la trêve hivernale. Les délais d'expulsion sont également réduits pour les squatteurs. concernant l'expulsion particulière des squatteurs, voilà, etc., etc. Pardon, etc., etc. Quelles sont les interdictions des bailleurs pendant la trêve hivernale? Eh bien, sachez qu'il vous interdit les bailleurs de posséder pendant la période de trêve hivernale la coupure de l'électricité, de gaz, de l'eau au sein de la location. Vous mettriez un tour et le locataire sera en droit de vous porter plainte contre vous. Donc, hors de question de couper, ni de faire quoi que ce soit. De toute façon, les fournisseurs de ces services ou l'interdiction depuis 2014 de couper l'alimentation dans une résidence principale, même en cas de facture impayée, pendant toute la durée de la trêve hivernale. De même, ne pensez pas expulser vous-même le locataire des lieux pendant la trêve hivernale, car vous risqueriez de lourdes sanctions. En effet, depuis le 27 mars 2014, sachez que cet acte est passible de 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, messieurs les propriétaires, faites très attention en ce qui concerne vos locataires. Alors, que faire pendant la trêve hivernale? L'interdiction d'expulser son locataire pendant les 6 mois les plus froids de l'année ne doit pas vous empêcher de poursuivre une éventuelle procédure à l'encontre d'un locataire ne payant pas son loyer, par exemple. C'est-à-dire que pendant cette période, le bailleur peut constituer un dossier contre le locataire de manière à le mettre à la porte à la fin de la période hivernale. La trêve hivernale bloque donc les expulsions, mais pas la procédure. En effet, rien ne vous interdit d'envoyer à votre locataire un commandement de payer pendant la trêve hivernale, ni même de demander un jugement d'expulsion. Si le locataire n'a pas régularisé sa situation dans les 2 mois qui suivent la réception du document. En résumé, il vous est possible d'engager un recours devant le tribunal d'instance visant à initier une procédure d'expulsion ou à poursuivre une action déjà entamée, bien sûr, pendant la trêve hivernale. Néanmoins, l'expulsion ne sera simplement effective qu'à la fin de la trêve. Enfin, quoi que le propriétaire fasse, la fin de la trêve, c'est la fin de la trêve. Aucune expulsion ne peut être faite avant. Bon, voilà. Il y a aussi des questions d'ordre juridique. Bon, mais ça, il faut quand même s'adresser soit à des associations, soit à des avocats, etc., etc., etc. Voilà, notre émission se termine. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis donc à mercredi prochain pour article 25. Je vais mettre un peu de musique et j'envoie le générique. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.
C'est parti pour le grand saut. La toute première date de la tourlée. Mais t'es juré de sortir la tête de l'eau. Je compte reprendre les hostilités. Le rendez-vous des accros. Chaque génération est représentée. Des gens décalés à l'aficionado. Le show va pouvoir commencer. Plaire à tout le monde, mais parfois à rentrer dans la ronde, fêter ce jour de fête pour supporter le poids du monde.
I'm black woman. Bring it home. Yeah, man, naturally, man. We were all dying for each other, you know.
It's so special.
Yeah, man, awesome, man. Bring it home. Hey, Sasha.
Yeah.